And so translation might save us. Might. There is no promise. Because what we have learned through the multiplicity of languages is that concepts vary from language to language and become enriched when they are translated into another language.
Pourquoi n'essaies-tu pas de traduire toi-même et on commence à traduire un vers, deux, trois, quatre, et puis finalement on fait un va-et-vient d'un texte à l'autre et on produit un objet rare, un objet différent en tout cas, et qui donne beaucoup de plaisir à construire, à concevoir.
Le cinquième chapitre, le sixième chapitre, le neuvième chapitre, le douzième chapitre, le quinzième chapitre, le dix-septième chapitre, le vingt-troisième chapitre, le vingt-neuvième chapitre.
C'est tellement mystérieux la traduction d'un livre, et c'est tellement passionnant la vie des artistes de la traduction. Pour ses 50 ans, l'Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada a lancé un balado intitulé « La version originale » dans lequel moi, Jeanne Auclair, je vais à leur rencontre. Le 23 novembre 2025, dans le nouveau local de la librairie La Livrerie, rue Ontario à Montréal, dans le cadre de la programmation dans la ville du Salon du Livre de Montréal, je me suis entretenue avec Catherine Ego devant public. Les sons sont Doana Avassilikiai. En introduction, vous avez entendu Alberto Manguel et Nicole Brassard. Bonne écoute.
Je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième épisode de la version originale, un balado d'entretien long avec des traducteuristes du Canada sur l'ensemble de leur parcours qui a été lancé à l'année 50e anniversaire de notre association. C'est le deuxième épisode aujourd'hui et je suis ravie d'avoir avec moi Catherine Ego. Bonjour Catherine.
Bonjour Jeannot.
Alors, née dans le nord de la France en 1964, arrivée au Québec via les États-Unis dans sa jeune vingtaine, autodidacte surdiplômée, selon ses mots, Catherine Ego est arrivée à la traduction comme il se doit par des détours. Le théâtre, la rédaction, la curiosité surtout. Aujourd'hui, l'une des grandes traductrices des littératures des Premières Nations, deux fois lauréate du prix du gouverneur général, elle a eu comme premier rôle de jouer Dieu sur scène.
Oui.
Visiter tous les couvents Clarisse de la province, animer des ateliers de guérison des mémoires, enregistrer plus d'une centaine d'épisodes de balado elle-même et récemment rédiger un rapport sur la traduction des langues autochtones au Canada. Mais aujourd'hui, c'est à sa version de l'histoire qu'on s'intéresse, la version originale. Écoutons pour commencer un collaborateur qu'elle admire nous dire quelques mots sur elle. Voici Renaud Roussel, co-directeur général des éditions du Boréal.
Cela fait bientôt 10 ans que je collabore quasiment chaque année avec Catherine Ego. Quand j'ai regardé la liste des traductions que nous avons travaillées ensemble, je me suis rappelé de nos premiers échanges. C'était pour Birdie, ce roman de Tracy Lindbergh. Magnifique roman où le cri est juxtaposé, côtoie l'anglais à chaque page. Catherine venait de gagner le prix du gouverneur général pour les Indiens des Plaines. Et je ne pouvais pas trouver une meilleure traductrice qu'elle pour ce projet. Je ne me suis pas trompé. Catherine a, comme d'habitude, fait preuve d'une précision, d'un dévouement et d'une énergie totale pour ce livre. Et quand je pense à Catherine, je pense surtout à nos rencontres de travail sur la traduction. Une fois qu'elle a terminé un premier jet du manuscrit, on avait l'habitude, surtout avant la pandémie, de se rencontrer pendant de grandes après-midi où on discutait de chaque page. Et il y a notamment eu ce projet Solitude de Paige Cooper où on a eu la chance, comme Paige Cooper vivait à Montréal, de travailler tous les trois ensemble sur des aspects extrêmement difficiles de ce texte, très recherché sur le plan de la langue et des univers inventés. Ça a été de belles discussions, des discussions très riches et très drôles sur des mondes et des situations très cocasses, pour le dire comme ça. Catherine, pour moi, représente un idéal de la traduction. Une personne qui veut à chaque fois rendre grâce aux spécificités du texte et qui ne lâche rien jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment où le livre part à l'impression, et même après, en fait, puisque Catherine a cette habitude, et c'est formidable, d'assurer la promotion des livres. Alors, merci pour tout, Catherine.
Alors, rien de moins, Catherine.
C'est très bouleversant. Tu es allée le débusquer au Salon du Livre,
bien
on dirait,
sûr,
d'après,
bien
le,
sûr.
D'après le paysage sonore. Mais je ne savais pas qu'il y avait des témoignages. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres surprises?
Je me suis dit qu'on allait commencer dans l'humilité.
Oui, vraiment. Hein? Oui, ça la met à rude épreuve, mon humilité.
Oui, ben, je suis allée chercher Renaud, en effet, parce que dans les discussions qu'on a eues préalablement avant d'enregistrer le balado, Catherine, tu me disais que la figure de Renaud avec qui tu travailles depuis une dizaine d'années avait été impressionnante dans ton parcours, que c'était un genre de collaborateur idéal.
Oui, c'est un collaborateur idéal. Il a beaucoup de talent. Il est notamment réviseur, ce qui est un métier de subtilité. Et il est éditeur. Et c'est un réviseur magnifique parce qu'il laisse parler la voix du traducteur ou de la traductrice, mais en même temps, il l'endigue un peu quand on se laisse emporter par notre plume, parce que c'est un risque qui nous guette toujours quand on fait de la traduction. Alors, les mots me manquent un peu, je dois dire, je trouve ça très bouleversant.
Oui,
profitez-en, parce que c'est rare.
Oui, alors, en voilà. Effet, on va s'en rendre compte assez vite. Mais je pense qu'une qualité que tu apprécies beaucoup chez Renaud, c'est qu'une fois qu'il choisit la personne qui traduit, il fait aussi très confiance à son jugement. Donc, c'est un accompagnement qui n'est pas non plus un remplacement de ton travail ou une espèce de dispositif de surveillance.
Oh non. Et puis, il a un jugement très sûr pour choisir ses traducteurs et traductrices, mais aussi pour choisir les livres. Parce que depuis quelque temps, on voit dans le monde de la traduction littéraire que ce sont les traducteurs et traductrices qui proposent des livres à traduire aux maisons d'édition. Ce qui est correct, parce que ça arrive qu'on ait des coups de cœur. Mais il y a certaines maisons qui ont tendance un peu à trop se reposer sur les traducteurs et traductrices pour enrichir leur collection. Puis ça, c'est un peu, à mon avis, problématique parce que c'est pas notre travail. Ce sont aux maisons d'édition à connaître ce qu'elles veulent faire, à avoir une vision éditoriale, à avoir des collections et à chercher à les enrichir en faisant du repérage. Et Renaud, il fait ça. Il a vraiment... il détecte vraiment des livres même improbables, un petit peu, qui, comme l'a été Anna Réo, dont on parlera sûrement plus tard.
Oui.
Donc c'est vraiment, c'est un homme de livres complet. Il est lui-même traducteur, il est lui-même auteur, il a écrit des textes courts qui ont été même, je pense pas me tromper en me disant qu'il avait été sélectionné pour les prix de Radio-Canada, et puis éditeur et réviseur. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
Alors je cesse tout de suite ton éloge pour te rappeler que c'est un balado où il sera surtout question de toi et non pas du parcours de Renaud. Mais je vais aller chercher le livre dont il a parlé à l'introduction de son mot. Il a parlé de la destruction des Indiens des plaines, ouais. Maladies, famine organisée, disparition du mode de vie autochtone. Justement, c'est un livre qui t'est tombé dans l'œil à toi et
oui.
Que tu as apporté vers une maison d'édition et qui
oui.
Était un jalon important de ton œuvre, bon, pour le prix du gouverneur général, mais aussi, je crois, dans ta découverte des réalités des peuples autochtones au Canada, puis ton rôle de passeuse aussi.
Oui. Mais...
Je voudrais juste rappeler quelques éléments biographiques avant qu'on se mette à discuter de ça. Donc, tu as toujours eu une grande curiosité pour les réalités des Premières Nations. Dès les années 80, tu es allé étudier en droit autochtone avec Rémi Savard, anthropologue depuis décédé. Et dans les 10 dernières années, tu as complété un certificat en études autochtones dans le nouveau programme à l'Université de Montréal. Donc, c'est vraiment un champ de connaissances qui a occupé beaucoup de place dans ta vie. D'où vient cette curiosité-là, tu crois?
Ben, moi, je suis d'origine européenne, alors la base, c'est la fascination. Petit, on a tous lu Lucky Luke, puis on voulait tous voir, faut pas se le cacher non plus, mais c'est pas une mauvaise porte, la fascination, pour découvrir quelque chose. Faut juste pas rester sur le seuil, parce qu'on folklorise les autres. Et donc, c'était ça, c'était un peu... je suis entrée là par la fascination, mais très vite, notamment avec ce cours de Rémi Savard sur le droit autochtone, c'est par la justice sociale que je me suis intéressée au sujet, en me disant comment est-ce que 4% de la population peut vivre à part et dans des conditions souvent difficiles. Donc c'est ça qui m'a amenée à m'y intéresser, à lire. Donc quand il y a eu l'UDEM, il y a eu les livres, puis ce livre-là, Les Indiens des Plaines, j'ai vu un entrefilet dans Internet, et pour une raison quelconque, je me suis dit, ça va être super, il faut que je traduise. Alors, il n'y avait rien, ce livre-là était... C'est une thèse de doctorat, ça fait pas les manchettes, là, les thèses de doctorat.
Particulièrement sur ce sujet, malheureusement, encore plus à l'époque.
Et l'auteur, James Ashchuk, c'est un historien de la maladie. Lui, il s'intéresse à comment voyagent les microbes, les trucs, puis bon. Et donc, c'est comme ça qu'il est tombé sur comment les maladies ont ravagé les Indiens des Plaines. Je dis Indiens des Plaines parce que c'est vraiment l'expression consacrée. Et puis donc, ben, j'ai appelé les presses de l'Université Laval pour qui je traduisais, et puis je leur ai dit, faut traduire ça, ça va être l'équivalent de Jared Diamond, là, qui avait traduit l'effondrement, mais avant ça, il y avait eu Germs, justement, German Guns and Steel. Alors, ça va être l'équivalent, évidemment, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, hein, ça s'est vendu à des millions d'exemplaires, ce livre-là, donc ça va être pareil. Alors, ils m'ont dit, non, ça n'intéressera personne, les Indiens des Plaines, en français, au Québec, bon, j'ai dit quand même, ils ont dit, ok. Et puis, une fois qu'ils ont eu signé le contrat, ce livre-là en anglais a tout raflé, là, tous les prix qu'il avait raflé, les a gagnés en anglais. Puis après, moi, j'ai eu le prix du gouverneur général pour la version française. Et puis, c'est en réimpression, enfin, c'est un peu exceptionnel, c'est une thèse de doctorat et c'est en réimpression en pull constamment. Alors, ça a été une belle rencontre. Et puis, à peu près au même moment où je traduisais ça, je l'avais déjà pas mal avancé, peut-être il était en cours de publication, ben le certificat en études autochtones à l'UDM s'est ouvert. Mmh. Alors je me suis inscrite, et puis après il y a eu l'aventure Confluent, là, qui est un balado sur les questions autochtones. Alors oui, là-dedans pas mal.
On va y revenir, mais je voulais d'abord, c'est lié à Confluent, mais parler du fait que depuis bientôt 10 ans, tu collabores avec le Centre de justice réparatrice, où tu as mis sur pied les ateliers de guérison des mémoires. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu veux nous parler un peu du Centre de justice réparatrice?
Ok, le Centre de justice réparatrice, la justice réparatrice s'est fondée sur l'idée que la justice du système judiciaire punit, mais ne guérit pas. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quelqu'un qui a commis un crime, et puis on le met en prison, mais la victime là-dedans, elle, qu'est-ce qui l'apaise, à part le sentiment que justice est faite, que la société a reconnu qu'elle avait été lésée, mais le trauma va au-delà de ça. Donc la justice réparatrice serait vraiment l'idée de réparer les gens, et au CSJR en tout cas, les victimes de la violence sont les gens qui ont subi une agression, les gens qui ont perpétré une agression, puis les gens qui en ont été témoins. Alors c'est pas réservé aux personnes qui ont vraiment subi le geste. Et puis à l'intérieur, donc il y a plusieurs services, comme par exemple des rencontres détenus victimes ou des rencontres agresseurs personnes victimes. Et puis guérison des mémoires, ce serait un peu long de raconter toute l'histoire, mais ça vient d'Afrique du Sud après l'apartheid. Il a fallu réconcilier les gens de manière très très concrète. Alors un dénommé Michael Lapsley, qui avait lui-même subi un attentat probablement commandité par le gouvernement sud-africain avant la chute de l'apartheid, a décidé de mettre en présence des Noirs et des Blancs, et qui se parlent, en disant la souffrance, tous les êtres humains la vivent, et tous les êtres humains la vivent de la même façon, ou à peu près. Alors tous les gens ont dit, mais ça va tourner à la guerre civile ton affaire, là, déjà on est pas mal là-dedans, et puis non. Les gens ont dit, la première rencontre, c'était une femme, une mère blanche, une mère noire, et la mère blanche a dit, moi, mon fils était soldat au moment des émeutes de Soweto, et il en est revenu, mais il a perdu la tête. Il a vu trop d'horreur. Et la femme noire a répondu, moi aussi, mon fils était à Soweto, puis il n'en est pas revenu du tout. Et les deux se sont tombées dans les bras parce qu'elles se reconnaissaient là-dedans, donc...
Voilà. Aller au-delà de la formule simple d'une victime, un bourreau.
Ouais.
Et toi, ben, ça donne que tu as aussi été en lien avec ces processus-là pour les peuples des Premières Nations. Mais quand on en a parlé une première fois, tu me disais que c'était très important pour toi, dès que tu as commencé à travailler avec eux, de mettre de l'avant l'idée qu'on ne va pas arriver une fois de plus dans des communautés des Premières Nations avec une solution de blanc qui leur est imposée de l'extérieur. On va commencer par aller voir en quoi ça peut résonner avec elles, avec eux. Une idée qui t'est chère de ne pas imposer de l'extérieur.
Ça m'est archi cher. Et je répète ma petite chanson, je chante ma petite chanson régulièrement sur toutes les tribunes, c'est que au CSJR, on m'avait recruté justement pour que je fasse le lien avec les communautés autochtones. J'ai dit, ça va prendre 2 ans avant qu'on ait un retour de courriel, là, je vous le dis. Là. Puis ils ont dit, non, ils en ont tellement besoin. Ils ont dit, bon, là, on va mettre des choses au clair. Ce dont ils ont besoin, c'est eux qui le savent.
Oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut leur demander, s'il vous plaît?
Est-ce qu'on peut leur demander? Puis des Blancs qui vont régler leurs problèmes, c'est bon, ils en ont eu 13 à la douzaine, là. Et donc, voilà. Et puis, effectivement, ça a pris du temps. Puis, petit à petit, il y a une personne qui est venue, puis une deuxième. Et moi, j'insiste beaucoup pour dire, ce ne sont pas des ateliers qui s'adressent exclusivement aux autochtones, c'est aux gens qui souffrent et qui sont prêts à essayer quelque chose. Et ça fonctionne.
Restons sur cette idée, là, justement, de ne pas imposer de l'extérieur puis de s'intéresser vraiment à la réalité dans toute sa nuance. Je raconte une anecdote qui nous concerne tous les deux, qui est arrivée récemment, puis tu vas voir où je veux t'amener avec ça après. On était ensemble à un colloque sur les 40 ans d'Ondinoc, qui est une compagnie de théâtre autochtone très, très importante au Canada, qui a eu lieu, ce beau colloque-là, récemment, en présence des créateuristes. Et après 3 jours de présentation, à la toute dernière après-midi, dans la toute dernière séance de questions, il y a une personne assez informée, qui avait l'air d'être quand même quelqu'un de cultivé, qui lève la main pour dire, grosso modo, c'est bien beau votre théâtre, mais ça me fend le cœur que vous fassiez un théâtre autochtone, pas en langue autochtone. Et ce reproche-là, moi j'étais assis à côté de Catherine Ego à ce moment-là, je la vois fulminer sur sa chaise et se demander si elle ne va pas se lever pour aller répondre en avant. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas bien tous les tenants et aboutissants de sa réaction. D'en avoir discuté avec elle après me le fait bien comprendre, puis je pense qu'on va comprendre ta position, Catherine, par rapport à ça, en s'intéressant à une polémique qui a été très importante pour toi dans ton parcours, qui est celle autour du harpon du chasseur de Marcousi Patsaug. Peut-être que je prononce pas bien son nom.
Patsaug.
Donc, ça s'est passé il y a une quinzaine d'années. Donc, ce texte-là, est-ce que tu veux nous le présenter?
Ce texte-là a la réputation d'être le premier roman écrit par un Inuit. Alors, c'est pas rien, c'est l'arrivée de la fiction, de l'écriture de fiction dans le monde inuit. Il a été écrit par Marcousi Patsaug, qui était un pilote de brousse. Donc, on dit de brousse par convention, mais c'est évidemment dans le Grand Nord qu'il travaillait. Et puis, à un moment donné, le ministère des Affaires autochtones du Canada a fait le tour un peu des communautés en disant « ces gens-là vieillissent et puis on n'a pas de traces ». Alors, il disait aux gens, écrivez, puis bon, puis à un moment donné, Marcousi qui arrive sur son bureau à Ottawa, avec une liasse de feuilles pas possible, et c'était le harpon du chasseur en Inuktitut, en alphabet syllabique. Alors le gars dit, c'est super, mais je lis pas l'Inuktitut, donc Marcousi l'a traduit. Marcousi parlait très bien l'anglais. Il a d'ailleurs écrit plusieurs de ses textes subséquents, je pense par exemple à Wings of Mercy, en anglais. C'est une langue dans laquelle il travaille aussi. Et son Harpon du chasseur a été publié en Inuktitut sous forme dans une revue qui s'appelait Inuktitut à l'époque. Bon, voilà. Ça a été traduit en français assez étonnamment, très rapidement. C'est-à-dire que ça a été publié en Inuktitut et en anglais, parce que c'était publié en même temps dans les deux langues, en 69-70, puis un an plus tard ou deux, Claire Martin, qui est une poétesse québécoise, l'a traduit. C'est sorti sous forme de livre. Et puis, alors c'est exceptionnel, honnêtement, je ne sais pas comment ça s'est produit, cette chose-là. Et puis, donc une quarantaine d'années plus tard, moi j'ai été approchée par Jardin de Givre, qui est une très très jolie collection de Imaginaire Nord, pour dire, veux-tu le retraduire? Et moi j'ai dit, bah oui, mais est-ce que je suis la mieux placée? C'est toujours une question bien à se poser quand on nous propose quelque chose. Je pensais surtout, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui connaîtrait mieux physiquement le Nord? Qui sait ce que ça veut dire quand le vent souffle? Qui sait ce que ça veut dire quand on est perdu? Qui sait ce que ça veut dire quand les gens nous rencontrent? Bon. Et puis l'éditeur me dit, non, j'ai bien cherché, puis il connaît à peu près tout ce qui grouille au nord du 55e parallèle, donc je lui fais confiance. Et il m'a dit non. Donc j'ai traduit en français, et ce livre-là a été publié en français et en Inuktitut sous forme de livre pour la première fois. Donc c'est aussi au niveau, parce qu'il faut souligner quand même, je sais qu'on est là pour parler de traduction, je me rappelle de ça, mais les éditeurs, ce sont des partenaires, là. C'est des amis, on est main dans la main. Alors travailler avec des bons éditeurs, c'est inestimable. Et lui, c'est un bon éditeur, donc, parce que ça coûte, là, imprimer un livre en deux langues, c'est deux fois plus cher, tout simplement. Et puis on a fait du bon travail, là. On s'est informé avec Avatak. Survient quelques années plus tard une retraduction. Moi, je me disais, moi je passe le ballon, puis un jour quelqu'un va le porter plus loin. Il n'y a pas de but en traduction. On continue à courir avec le ballon, là, à un moment donné, bon. Et puis, quelques années plus tard, une linguiste de l'université d'Edmonton qui m'avait beaucoup interrogée sur ma traduction, pourquoi j'avais fait ci, pourquoi ça, j'apprends qu'elle l'a retraduit. Mais là, de l'Inuktitut, avec un prof d'Inuktitut qui l'a traduit vers le français et elle vers l'anglais. Et c'est présenté partout comme étant la première vraie traduction de Marcousi. Alors là, j'ai fulminé. Catherine fulmine. Ça va être mon nouveau slogan, Jeannot.
Voilà.
Catherine fulmine. Alors, j'ai fulminé. Et puis, j'ai écrit partout à quiconque relayait cette nouvelle, ce n'est pas la vraie, c'est quoi une vraie traduction? On se posait sérieuses questions, là. Et puis, il y en a eu d'autres avant vous. On ne brûle pas ce qui nous a précédés.
Oui, et bon. Puis tu utilises des mots très durs dans l'entrée de blog qui a beaucoup circulé, que tu as écrit sur la situation, parce que selon la lecture que tu en fais, qui est extrêmement intéressante pour quelqu'un qui connaît moins un peu là, les enjeux linguistiques autour de ça, tu dis que c'est entre le folklorisme et le colonialisme, pas le projet de le retraduire, ça non. Comme tu dis c'est super, mais le discours autour de le premier vrai texte serait la traduction de l'Inuktitut, comme si le texte anglais n'était pas... original.
Ben, oui, c'est-à-dire que c'est comme si le vrai Marcoussi, c'est un Inuit, alors il doit écrire en Inuktitut, puis il doit écrire sur les affaires Inuites, puis il ne doit pas avoir de référence chrétienne, alors qu'il est anglican, et c'est son droit le plus absolu, là, c'est un être humain, c'est pas juste un Inuit tel que nous on peut le fantasmer, ou tel que des gens peuvent le fantasmer. Donc, eux, leur théorie, c'était que la version anglaise valait pas de clous parce qu'il s'était fait tordre le bras par l'agent des affaires indiennes de l'époque pour l'édulcorer pour un lectorat blanc. Moi, je pense pas qu'on tordait beaucoup le bras de Marcoussi parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de personnalité, mais bon. Et de toute façon, c'est son droit. Il y a une autrice, par exemple, Nivia Kandelusen, qui est groenlandaise, qui écrit, elle écrit en Kalaallisut, qui est l'Inuktitut du Groenland, elle s'auto-traduit en danois, puisque eux sont colonisés par les Danois, puis elle s'auto-traduit aussi en anglais. Et elle le dit, moi, ces trois livres-là, c'est pas tout à fait les mêmes. Il y a des choses que je dis pour ma communauté, il y a des choses que je dis pour les Danois, parce qu'on les connaît un peu, puis il y a des choses que je dis pour le monde entier. Et c'est son droit le plus absolu, elle est l'autrice. Elle est l'autrice. Alors moi, quand je vois qu'on arrive en disant « Ah ben, comme il y a Inuktitut, non, ça dans l'anglais, il n'aurait pas dû dire ça », évidemment que je fulmine, je ne suis pas d'accord. C'était, j'ai trouvé ça disgracieux pour le métier de la traduction littéraire, parce que quand même, on se décarcasse, là. On se décarcasse pour faire ça, les éditeurs se décarcassent. Et puis, j'ai trouvé ça disgracieux pour les auteurs inuits. Ce sont des auteurs, ils ne font pas juste être inuits dans la vie. Ils sont auteurs, ils sont pilotes de brousse, ils sont parents, ils sont toutes sortes de choses.
Et ils vivent bien dans les langues qu'ils veulent, c'est ça leur réalité. Il y a plein d'autres histoires qui peuvent nous venir en tête. À Montréal, moi je me souviens bien de Lassa Décéla, cette grande chanteuse qui a fait carrière au Québec et à l'international. Lassa a publié son premier album en espagnol. Donc les gens ont pensé, ben, chanteuse espagnole québécoise, mais c'était un mouvement de réappropriation d'origine qui était... C'est pas la langue dans laquelle elle vivait. Lassa vivait en famille plutôt en anglais et un peu en français. Puis l'espagnol, c'est aller chercher ça pour se reconnecter. Donc quand elle a sorti son album suivant et qu'elle s'est mise à chanter en anglais, il y a eu des critiques de... Elle se chante en anglais pour s'internationaliser et ça manque d'authenticité. Puis la scène était comme, ben moi, je parle en anglais avec ma famille depuis toujours. C'est vous voulez folkloriser mon parcours. Puis là, j'entends beaucoup d'écho avec ce que avec ce que tu mets de l'avant. D'ailleurs, il y a une autre belle idée sur ce qui est authentique puis ce qui ne l'est pas, qu'on peut mettre de l'avant à partir d'une autre de tes traductions, celle-là beaucoup plus récente, qui est celle d'Anna Areo, qui vient de paraître au Boréal, « Ma vie avec Grey Hall », un parcours fascinant d'une figure des Premières Nations qui a participé à toutes sortes de projets de conservation, de protection du territoire, avec son mari, son premier mari, en fait, qui est décédé, elle était beaucoup plus jeune que lui, et qui se faisait appeler Grey Hall, et ça a été révélé au moment de son décès que c'était quelqu'un qui s'était approprié des origines autochtones qui n'étaient pas les siennes, et même son épouse des Premières Nations n'en avait jamais rien su. Et c'est extrêmement intéressant comme parcours et comme histoire. Et dans le récit que Anna Areo en fait, que tu as superbement traduit, Catherine, c'est vraiment impressionnant de voir l'indulgence qu'elle a à la fin, quand elle découvre les vraies origines de l'homme avec qui elle a passé sa vie. Et je trouve que ce qu'elle veut mettre de l'avant, ce qui lui paraît important, résonne avec ce qui semble te paraître important pour toi aussi, puis pour les gens qui côtoient vraiment, les gens qui veulent défendre le territoire ou défendre une culture, qui est que ben, la vie qu'on mène, parfois, peut avoir plus d'impact que les origines qu'on a, qui nous ont précédés. Alors voilà ce qu'elle écrit à la fin. Vers la fin de son livre, elle dit « Du jour au lendemain, les éloges funèbres dithyrambiques disparurent. Au profit des titres sensationnalistes beaucoup moins flatteurs, Grey Hall, l'imposteur du siècle, le barbe bleue des temps modernes, la farce superbe, le plus grand charlatan de l'histoire des lettres, Grey Hall, le mystificateur, le maître du canular, etc. » Je vais juste mentionner en parenthèse, Catherine, que je sais à quel point tu as un bon lexique et le sens de la formule et que tu aimes les choses. Tu as dû avoir beaucoup de plaisir à traduire ces titres d'articles-là. Alors, je reprends la citation. « Je repensais alors alors à la vie si dure qui avait été la nôtre, à notre souci constant, à la faim qui nous avait tourmentés quand Archie avait renoncé à la trappe. Je repensais aussi à ses livres et à ses conférences, à l'énergie, au temps qu'il avait investi pour la protection de la nature, et tout ça en vain. Cette pensée m'était insupportable. Le public d'Archie se sentait floué, le soupçonnait d'avoir voulu faire un coup d'argent. C'est faux. L'essentiel de ses revenus, il l'investissait dans ses projets de sensibilisation à la conservation de la faune et de la flore. À eux seuls, ces deux films avaient coûté 40 000 $, et Archie n'avait pas seulement donné son argent à la cause, il lui avait donné sa vie.
Ben oui, c'est un personnage sulfureux, évidemment, Grey Owl, hein, parce qu'il était, pour ceux qui le connaissent pas, il avait la tête de l'Indien telle qu'on le rêve, là. Il avait les tresses, ce qui détonnait un peu, c'est qu'il avait les yeux bleus, donc c'était facile. Il s'était inventé un père écossais et une mère apache, et une naissance au Mexique. Ah bon, mentir qui vient de loin, bien avant Internet, hein, y a personne qui est allé vérifier. Donc ça expliquait tout, ça expliquait son accent anglais, ses yeux bleus, bon. Mais il est arrivé ici, et puis il a vraiment vécu à la dure comme trappeur. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il a rencontré Anna Areo, elle était vraiment Mohawk, mais elle avait une vie urbaine dans le fond. Elle vivait dans un village, et puis elle n'était pas, c'était pas du tout une fille des bois là. À un moment donné, il l'invite à aller chez lui. C'est 36 heures de train. Elle demande une autorisation à son père qui dit « Ok, mais une semaine, pas plus. » Elle arrive de l'autre côté, 36 heures, elle dit « Ok, je fais demi-tour parce que c'est comme ça. » Une chose en amenant une autre, elle est restée là 3 mois. Pour vous dire un peu le personnage de cette femme, elle est née en 1909, là, puis elle est d'une fougue, d'une force incroyable. Puis à un moment donné, elle dit « Bon, ok, c'est joli chez vous, mais enfin, c'est quand même un peu neigeux, bon, etc. » Puis il se rend compte qu'elle ne connaît rien du bois. Donc, il avait fantasmé sur elle, étant comme l'Indienne qui va tout savoir, puis elle, inversement, tu sais. Et puis à un moment donné, il dit « Est-ce que vous alliez dans le bois ?» Elle dit « Oh oui, avec mon père, on allait aux champignons des fois. » Il dit « Ah ouais, non, mais c'est pas tout à fait ça. »
Non, c'est ça.
Et puis, alors, on est loin du compte. Et ils se sont associés, puis c'est elle qui a fait du trappeur Archibald Bellanet, le conservationniste, parce qu'elle s'est prise d'amitié pour deux petits bébés castors dont il avait tué la mère, et puis une chose en amenant une autre, il les a adoptés aussi, bon, etc. Et puis, après, il a fait des tournées dans le monde entier. Lui, il était extrêmement hypothéqué au niveau de la santé par la guerre. Et puis, il a fait des tournées dans le monde entier. Puis, il y a de l'argent qui a afflué. Puis, c'est lui qui a réimplanté le castor. Pas lui tout seul, mais en grande partie, le castor était fini. La trappe, c'est fini parce qu'il n'y avait juste plus de castor.
Ouais. D'ailleurs, c'est drôle qu'on en parle alors qu'il y a encore les toiles de Kent Monkman au Musée des Beaux-Arts avec sa toile sur les castors. Où il y a tous les castors qui reprennent les rôles coloniaux. Allez vous amuser à regarder ça.
Alors, effectivement, elle a appris après sa mort qu'il lui avait menti, puis ça, elle a trouvé ça dur, qu'il ne trouve pas ça dur, là, de se faire mentir. Et puis, lui a été aussi, d'une certaine manière, poussé à ça, parce que la première conférence, il l'a donnée à Montréal, parce qu'ils ont vécu au Québec, ces gens, hein, essentiellement. Et puis, à Montréal, et puis son espèce d'agent, qui était aussi son ami, puis son éditeur, a fait du ramdam un peu autour, puis le lendemain, les journaux montréalais titrent « un vrai Indien !» Pure blood Indian. Alors lui, il dit, bah, t'es un peu charrié, là, mais bon, regardez, ça leur fait plaisir, je m'en fiche. Puis finalement, il n'a jamais démenti ça. Puis à un moment donné, bah, il s'est promené avec ses plumes, puis ses franges, puis ses trucs. Puis il a dit, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est qu'ils écoutent mon message. Et s'il faut que je porte des plumes et des franges, je vais le faire. Et s'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas été écouté. Alors c'est ça, c'est une nuance où des fois, je trouve que ça nous manque un peu quand on pense à ces questions-là. Je ne dis pas que c'est super hein, de se faire passer pour autochtone, je ne suis pas en train de dire ça. Là. De
s'inventer non, puis elle ne le dit pas non plus. Là. J'ai lu la page où elle est pleine d'indulgence, mais il y a aussi la page où elle est dans la colère de venir de découvrir la chose.
Ouais. mais c'est tout ça pour dire que ces questions-là sont plus nuancées selon qu'on les voit depuis notre point de vue d'urbain, dans un point de vue intellectuel. Et sur le terrain, parce que les autochtones, ils savaient bien qu'ils n'étaient pas indiens, là, je veux dire, ils se connaissent entre eux, ils connaissent les lignées, ils entendent son accent, ils ne sont pas dingues. Alors, ils le savaient, mais il était un des leurs, puis c'est tout, ça n'a pas fait d'histoire. Mais c'est vrai que c'était disgracieux, peut-être.
Alors, ceci pour nous faire encore un peu de son d'Oana Vasilikiai, pour nous faire basculer vers une autre question qui est extrêmement liée à celle qu'on vient de traiter, qui est, au fond, ben, la question de la légitimité. Hein? Qui peut traduire quoi et qui peut parler de quoi? Alors, c'est une question qu'on se fait de plus en plus poser comme traductrice dans les dernières années. Et récemment, tu as été invitée, Catherine, avec toutes sortes d'autres gens, à t'exprimer dans le cadre du 50e anniversaire de notre association, la revue Ellipse, qui est une revue pancanadienne de traduction qui est maintenant en ligne, qui est encore plus vieille que la TTLC, qui a même plus de 50 ans, a produit un numéro spécial pour l'anniversaire, avec des textes qui ont été cette fois-ci commandés. Et dans le texte que tu as écrit pour contribuer au numéro, Catherine, toi dont la plume se fait plutôt rare en général en tant qu'autrice, un joli texte qui s'appelle « Ne traduire que soi », dans lequel tu abordes de front cette question-là de la légitimité, de faut-il ressembler à son auteur ou à son autrice. La position que tu prends est tout en nuances, comme la plupart du temps dans les positions que tu prends. Donc, tu parles d'empathie et d'humilité. Tu établis bien que la traduction, c'est toujours une distance, pour te citer, et tu poses des questions qui te déplacent un peu la focale, comme... quel aspect de l'identité d'un auteur ou d'une autrice influe le plus sur son monde intérieur et sur son écriture? Est-ce que c'est la question de la couleur de la peau ou bien son statut socio-économique, la parentalité, son état de santé, le lieu de vie, etc.? Au fond, tu déplaces la question pour nous amener à réfléchir au fait que il n'existe pas un traducteur ou une traductrice qui aura vécu la même chose que l'auteur et l'autrice qui a écrit le livre. Et qu'en sait-on de ce que l'auteur et l'autrice ont voulu faire comme lien entre son expérience de vie et le texte qui est à écrire? Donc, c'est une question qui amène un millier de nuances.
Oui, parce que quand on... Il y a un mouvement un peu récemment qui dit que pour traduire un auteur, même pour écrire de la fiction, il faudrait vivre ce que nos personnages vivent, il faudrait être ce que nos personnages sont, ou pour une traductrice, il faudrait être comme l'auteur. Et ok, peut-être que c'est vrai, mais ça veut dire quoi être comme quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que c'est déterminant? Est-ce que c'est le genre? Est-ce que c'est l'appartenance ethnique? Est-ce que c'est le parcours? Est-ce que c'est être pauvre? Est-ce que c'est être malade? Est-ce que c'est parents? La société dit non, c'est l'appartenance ethnique. Alors, si pour traduire les auteurs autochtones, il faut être soi-même autochtone. Bah, pour traduire les femmes, il faut être femme. Moi, je demande à ce que ce soit prouvé, parce que je le vois pas, ça, je le vois pas. Est-ce que quelqu'un qui serait, mettons, est-ce qu'une femme, je sais pas moi, qui vient d'une grande famille, qui va bien, qui est en bonne santé, tout ça, est mieux placée pour traduire une femme qui a été itinérante, qui est malade, qui a subi des agressions, qu'un homme qui aurait vécu ce même parcours? Moi, je ne suis pas prête à dire que parce qu'on est femme, on entre nécessairement en résonance. L'autre chose aussi, c'est que traduire, c'est rentrer dans le monde de l'autre. Alors, si on peut rentrer que dans son propre monde, mais faut pas faire ce métier-là, là.
Oui, tout à fait.
Bon, alors, traduire, c'est rentrer dans le monde, voir le monde avec les yeux de l'auteur, même quand on n'est pas d'accord avec lui, même quand on trouve que ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. C'est notre métier de devoir faire ça. Alors, c'est un peu les questions que je pose, puis de pas penser comme des armes à feu, dans le fond. Une gâchette, boum, allez, on tire. Non, ça marche pas comme ça, c'est plus nuancé que ça. Et l'autre chose qu'on oublie souvent, parce que nous sommes un métier de l'invisibilité, c'est que c'est un métier, la traduction. C'est pas parce que on ressent ça super fort, là, mon Dieu, le baseball, j'adore trop ça, qu'on peut traduire un roman sur le baseball. Enfin, je veux dire, ça n'a pas rapport. C'est aussi un métier. C'est vrai qu'on est peut-être un métier qui n'est pas assez diversifié. Ça, je suis bien prête à dire ça.
Puis, tout à fait.
Oui, ouvrir nos portes. Par exemple, ça peut se faire par des collaborations. Alors, un traducteur, une traductrice chevronnée qui dit, ben, cette personne-là, elle a un vécu que nous, on n'a pas globalement, donc on va co-traduire. Ça, je trouve ça très, très prometteur. Ariane Rocher l'a fait à plusieurs reprises, c'est intéressant.
Oui, notre collègue, en effet, amené vers la traduction des gens qui sont maintenant d'excellentes traductrices, comme Kamala Makrel, qui a eu sa première opportunité de traduire, sa première occasion de traduire avec Ariane Desrochers, une co-traduction, puis qui maintenant est une des bonnes traductrices qu'on a.
Natacha Canapé-Fontaine a traduit aussi avec Ariane. Alors ça, je trouve ça très prometteur pour élargir un peu, pour diversifier un peu notre métier. Mais c'est ça un peu mes arguments. C'est quand on dit il faut ressembler à l'autre, de quel point de vue et qui décide le point de vue qui est important. L'autre chose aussi, c'est est-ce qu'on doit ressembler à l'auteur ou à ses personnages? Est-ce que, mettons, un auteur homme blanc qui met en scène des femmes, des enfants, des trucs. Bon, il n'y a personne qui va lui reprocher, sinon on aurait des livres plates, là, on s'entend, là. Il n'y a personne qui va lui reprocher ça. Alors, quand on veut traduire son univers, on traduit qui exactement? Est-ce qu'on devrait traduire ses personnages ou on devrait le traduire lui? C'est inextricable, cette chose-là. Puis, il y a aussi que quand on est en traduction littéraire, ben, y a aussi des moments où on doit dire « ça, je ne peux pas ». Je peux pas, j'ai pas une assez grande connaissance de ce monde-là, j'aurai pas cette finesse-là, donc je vais laisser ça à quelqu'un d'autre, ça nous arrive. Bon, quand on en a le luxe aussi, il faut manger, mais je veux dire idéalement, parce qu'il y a aussi des aspects pratiques, mais idéalement, ce serait ça. Mais je reviens, excuse-moi, je vais encore faire de la promotion pour Renaud Roussel, mais les bons éditeurs le savent. Ils ne vont pas venir à moi pour dire « veux-tu traduire l'histoire des Canadiens de Montréal ? Je les trouve cute et tout, mais je ne pourrais pas, ça ne m'intéresse pas assez. Voilà. »
En effet, on va le dire comme ça. J'ai eu une expérience similaire à la tienne récemment, puis je résonne avec ton exemple du baseball, parce qu'on m'a approché pour traduire un texte qui paraît ces jours-ci, qui était un immense défi stylistique. C'est le défi qui m'a appelé, mais thématiquement, on parle d'un personnage qui est joueur de football professionnel. J'étais incapable de même expliquer les règles du football professionnel américain, qui sont extrêmement compliquées. Alors, ça a été toute une aventure d'aller voir des matchs, de me le faire apprendre par mon neveu, d'aller voir des journalistes sportifs.
Collaboration.
J'ai fait une immersion d'un an pour être capable de décrire des jeux de football professionnel, parce qu'évidemment, c'est pas ça qui m'avait amené vers le livre. Je déplace un petit peu le sujet, mais on reste quand même sur quelque chose d'extrêmement proche. T'as eu la chance, ou à la malchance, tu me diras, d'être approché dans les dernières années pour écrire un rapport sur la traduction des langues autochtones au Canada. Et c'est un rapport qui est très intéressant, que vous pouvez trouver via les communications de notre association des traductrices, traducteurs littéraires du Canada, au fond, qui déplace vraiment notre point de vue. Alors, pour te citer à plusieurs reprises quand on parle de cet enjeu-là, tu aimes à répéter, dès qu'on se met à parler aux gens sur le terrain, sur la situation, ben, on réalise qu'il faut arrêter de fantasmer, qu'on va traduire une grande œuvre littéraire du Wendat à l'Abénaki. C'est que c'est pas ça les enjeux en ce moment qui sont probants au Canada. Est-ce que tu veux nous parler un peu de...
Oui, c'est un mandat qui m'avait été donné par la TTLC, parce que comme je fréquentais beaucoup les univers autochtones, et le mandat était, et c'est pas moi qui l'ai demandé, mais le mandat était un rapport sur la situation au Québec, la traduction depuis les langues autochtones vers les langues autochtones, entre langues autochtones. Petit projet, parascolaire. Alors j'ai dit, ok, mais je fais ça comment là? Alors, comme j'avais cette émission de radio dont on reparlera certainement, je rencontre des gens, donc j'ai fait des entrevues. Il y a aussi une recherche documentaire, mais des entrevues pour demander. Alors, il y avait de l'Inuaimon, il y avait de la Tikamek, Abenaki, enfin plusieurs des langues, là, des 11 nations. Nations autochtones du Québec. Et puis, j'ai demandé aux gens, et puis eux, ils m'ont dit, regarde. C'est pas tant notre priorité, là. En Inuaimon, par exemple, il y a encore des personnes âgées qui parlent peu le français, qui ont toujours l'impression qu'ils le parlent mal parce qu'ils sont allés au pensionnat, puis on leur a dit « tu le parles mal », puis bon, etc. Alors, quand ils sont hospitalisés, ce qu'ils veulent, c'est comprendre ce qui se passe dans leur langue. Quand ils sont à faire avec le système judiciaire, il faut qu'ils sachent ce qui se passe dans leur langue. Et ça, c'est pas nécessairement les personnes âgées, là, c'est aussi les jeunes. Donc, la priorité en ce moment, quand on traduit vers les langues autochtones, ce sont des textes extrêmement pragmatiques. Traduire des auteurs québécois, francophones ou anglophones, ou canadiens, anglo, franco, en Inuaimon, en Tintikamek ou en Abenaki, c'est pas une priorité pour les communautés. Maintenant, traduire depuis... En plus, notre univers, ils le connaissent, là. Il y a très peu de gens qui sont unilingues dans une langue autochtone, maintenant, ou des personnes très âgées. Mais les jeunes, ils parlent tous forcément ou l'anglais ou le français, souvent les deux, en plus de leur langue.
Oui, encore une fois, c'est folklorisé que de l'oublier.
Oui. Alors, s'ils veulent lire des auteurs, des autrices québécois, anglo ou franco, ils vont le faire dans la langue d'origine, là, tout simplement. Traduire vers leur langue, c'est pas intéressant. Maintenant, traduire depuis leur langue vers l'une des deux langues coloniales, c'est-à-dire l'anglais et le français, oui, c'est intéressant, mais il n'y en a pas tant d'auteurs qui écrivent dans des langues autochtones. Souvent, les auteurs vont mettre quelques mots, quelques phrases. Puis des fois, comme par exemple Louis-Carl Picard-Sioui, il dit, moi, je mets des phrases en Wendat, puis je trouve ça cool que les gens ne comprennent pas. Tu sais, ça te propulse dans l'étrangeté, c'est intéressant. Alors, on ne veut pas le traduire. Mais de toute façon, l'essentiel des livres sont en anglais ou en français. Alors, on dit, oui, mais les légendes. Puis là, les communautés disent, wow. On a subi l'extractivisme culturel, spirituel, minier, pas nos livres en plus. Nos histoires, peut-être, on va y réfléchir un peu, là, mais peut-être qu'on aimerait qu'elles restent dans notre communauté parce que c'est notre vision du monde. Ce sont souvent des récits de création du monde, c'est notre vision. Alors, depuis les langues autochtones, il y a quelques exemples. Hein, il y a Anantan Capèche avec Je suis une maudite sauvagesse. Il y a quelques exemples, mais pas tant que ça. Et puis, entre langues autochtones, moi, j'ai trouvé un livre qui a été traduit du Kala Alesut à l'Inuktitut ou l'inverse, là, qui s'appelle Silla, mais c'est extrêmement rare. Donc, ma conclusion dans ce rapport-là, c'est un fantasme. C'est un fantasme de dire on va traduire vers les langues autochtones, depuis les langues autochtones, entre langues autochtones. Et en plus, la plupart de ces langues-là, à l'exception de la Tikamek et l'Enoahemoun, elles sont en revivance. Là, ouais, le Wendat est en train de ressurgir, mais à force du poignet, pareil pour la Benaki. Anishinaabe est encore bien parlé, le cri, on n'en parle même pas, il est super bien parlé. Mais elle est là, la priorité. Alors, encore une fois, c'était ne projetons pas nos fantasmes sur voilà ce qu'il faut pour qu'ils aillent bien.
Oui.
C'est pas leur priorité.
J'aime bien cette grande oreille que tu as, cette grande écoute que l'expérience t'a apprise, qui nous amène souvent à renverser les perspectives qu'on a sur ces enjeux-là. Moi, je me souviendrai toujours d'une bande de bande dessinée de Kino, d'une ligne que j'ai lue à adolescente, qui représente un personnage occidental qui est en face d'un personnage de Première Nation qui pourrait être un peu partout dans le monde, là, très folklorisé dans le dessin. Il y a son appareil photo. Et le personnage des Premières Nations lui dit pas prendre photo, faire disparaître âme, tu sais, avec la transcription des paroles un peu ridicule qu'il y avait à l'époque dans ces personnages-là. Puis on se dit, ah non, ça va être une blague complètement déplacée. Et le blanc décide de prendre la photo quand même, et à la dernière case, c'est le blanc qui a disparu. Et puis le Premières Nations lui disait, je lui avais dit.
Il y avait une autre blague comme ça, je pense que c'était Gary Larson. C'était une tribu dans une case, là, puis c'était bien tribu, puis il y a une énorme télé. Et puis à un moment donné, il y en a un qui dit « Cagez la télé, voilà les anthropologues !» Parce qu'ils savent que les anthropologues ne vont pas être contents de voir qu'il y a une télé, alors que c'est bien leur droit s'ils veulent regarder la télé.
Alors je vais nous faire entendre un son que tu connais bien.
Confluent, avec Catherine Ego et Mathieu Lavigne.
Bonjour Catherine.
Bonjour Mathieu.
Alors, on reparlera de cette guitare. J'imagine que c'est la guitare de quelqu'un que tu connais bien. On y reviendra un peu plus longuement tout à l'heure. Mais avant, je voulais parler de ce balado-là. Je l'ai dit en introduction, tu as animé avec Mathieu, qu'on vient d'entendre dans l'enregistrement, plus d'une centaine d'épisodes de ce balado-là qui s'appelle Confluent et qui résonne vraiment avec ce qu'on vient de dire dans le segment précédent, que c'est toujours important pour toi d'aller à la rencontre des vraies personnes et de leur donner la parole plutôt que de folkloriser. Est-ce que tu veux nous expliquer comment a commencé l'aventure de Confluent?
Bon, Mathieu Lavigne, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par la justice réparatrice et qui, à un moment donné, est devenu directeur d'un organisme qui a le pire nom d'organisme du monde ever, c'est Mission Chez Nous. Hein? Voilà. Bon, en tout cas, on va pas revenir là-dessus. Je lui dis à chaque fois qu'on se voit, puis il commence à être lassé. Mais en fait, c'est une création des évêques du Québec qui ont voulu se conformer à l'appel à l'action de la Comité Vérité et Réconciliation, qui leur disait l'Église écoutait un peu les autochtones au lieu que ce soit l'inverse. Alors ils ont dit OK, on va faire ça. Alors ils ont fondé un organisme qui soutient la pastorale dans les communautés, parce que contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de communautés, il y a encore beaucoup de gens qui sont extrêmement attachés à l'Église, extrêmement attaché à l'Église. Alors, il y en a qui sont en rejet complet, mais encore une fois, c'est plus nuancé qu'on pense. Et puis, donc Mathieu m'a dit, moi j'ai accepté le poste, mais je veux faire une émission de radio, est-ce que tu veux la faire avec moi? Ce serait des entrevues de personnes autochtones, une demi-heure par semaine, une personne. C'est beaucoup, hein? Une demi-heure, quand est-ce qu'on entend quelqu'un? À part moi en ce moment, là. Mais quand est-ce qu'on entend quelqu'un parler une demi-heure? Bon, alors j'ai dit, ok, mais il y a une seule condition, c'est je veux carte blanche absolue. C'est-à-dire carte blanche pour trouver les invités, leur poser les questions que je veux, et eux qui puissent dire ce qu'ils veulent. Je ne veux pas qu'après, on dise « Ah ouais, mais c'est un peu... » Non, 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 non. Alors, il a dit oui. Et puis, je dois dire qu'après 135 épisodes, c'est tout à fait ça. On n'a jamais eu un froncement de sourcils. Pourtant, il y a des gens qui ont dit des choses dures envers l'Église, mais on n'a jamais eu un froncement de sourcils. Et puis, on a commencé en pleine pandémie. Donc, à l'époque, c'était à distance, bien sûr. On était dans un studio. Et puis, donc, on ne pouvait joindre que des gens qui étaient un peu à l'aise avec la technologie, très à l'aise avec le français, qui étaient à l'aise avec le fait de parler sans se voir et tout ça. Puis, dès que la pandémie a été derrière nous, moi, j'ai dit, là, on va dans les communautés. Alors, on est allé partout. On est allé dans beaucoup d'endroits. Puis là, je dois dire, bien sûr, chez nous, ils sont derrière nous, là. Et puis, là, ça nous a permis de rencontrer des gens qui ne sont pas dans les médias. Des personnes âgées, des gens qui ont des petites business, des gens de toutes sortes. Et au bout de 135 épisodes, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'on a interrogé des gens d'à peu près les 11 nations. Je dis à peu près, mais les 11 nations, en fait. Et puis, de tous horizons. Alors, par exemple, des vieilles personnes qui sont allées au pensionnat, puis qui parlent, des gens qui font de la politique, des gens qui sont dans l'art, qui sont très médiatiques. Et puis, je pense par exemple à un créateur 3D, Wendat, de Wendake. Donc, lui est d'un truc de pointe, mais d'hyper pointe. Et il s'en sert pour... garder la mémoire des artefacts. En les gardant de manière virtuelle, ces artefacts-là ne s'éliminent pas. Donc ce que j'aime, c'est que ça donne une espèce de portrait pointilliste un peu des communautés avec toute leur diversité. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est vraiment... on est très contents de ça, de la diversité des témoignages.
Oui, puis c'est extrêmement riche la part que vous faites, Mathieu et toi, à notre compréhension collective de ces réalités-là. C'est le moment de faire un grand retour dans le temps, parce que maintenant qu'on comprend tous les différents filons là, qui tressent ton existence des 20-30 dernières années, j'imagine qu'on est tous curieux, curieuses d'entendre d'où tu viens et d'où t'es venue toute cette curiosité-là. Donc, on va faire le saut, retourner de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, le nord de la France.
Oui!
La jeune Catherine naît dans une famille de tisseurs, donc une famille d'artisans.
Ouais.
Et je crois que dans tes souvenirs d'enfance, le fait qu'il y ait des outils matériels dans la maison était très important dans ton environnement familial, sonore.
Oui. Sonore, oui, parce qu'un atelier de tissage, c'est extrêmement bruyant. Mais j'aimais bien taper des clous, scier des planches et tout ça, Moi, je me rappelle, mon père m'a jamais beaucoup interdit de choses dans ma vie, mais je me rappelle distinctement qu'à 9 ans, il m'a interdit d'utiliser sa scie électrique et j'ai trouvé ça suffocant d'indignation. Donc, pour vous dire, j'utilisais beaucoup des outils qui n'étaient pas de mon âge.
Et tu étais donc peut-être pas destiné à aboutir au Québec, mais pour comprendre ce qui fait que tu as fini par t'y rendre, il faut passer par ton frère. Mm-hmm. Ton frère se rend à la toute fin des années 70 au Québec. Mm-hmm. C'était une des étapes d'arrêt dans un parcours de l'Amérique du Nord, qui était un fantasme français assez commun à l'époque, aller faire l'Amérique en voiture. Et tu dis, il est arrivé dans un Québec en grande effervescence et il a ramené cette excitation-là à la maison.
Il est arrivé donc en 79 au Québec, alors c'était une période très très effervescente. Et puis, alors lui il disait week-end, puis il se faisait reprocher ça, alors il est revenu, il dit oh là là, les gens sont très très à cheval sur le français et tout, puis à juste titre. Et donc il avait ramené toutes sortes de vinyles à l'époque. Dedans il y avait 5e saison d'Harmonium, il y avait 200 000 à l'heure de Fiori Seguin, il y avait le premier album de La Bottine Souriante qui s'appelait Il y a bien du changement, il y avait Neil Anville. D'un des grands conteurs du Québec qui s'appelle Jocelyn Bérubé. Puis à l'époque, il y avait les paroles, soit dans les cartons, soit dans les livrets intérieurs. Et puis moi, j'écoutais ça, puis je lisais ça, puis je ne comprenais rien. Écoutez, il y avait du changement quand on a grandi à Cambrai, là, puis c'est incompréhensible. Hein. Puis je me disais, mais c'est pas... Alors j'écoutais ça en boucle, jusqu'à ce que les disques seraient, et puis je me dis, un jour, je vais comprendre. C'est pas possible. C'est pas possible que ces gens parlent le français et que je ne comprends pas. Alors, j'ai oublié ça, Puis après, je suis allée étudier aux États-Unis 3 mois dans le cadre d'une école de commerce, une erreur de jeunesse que j'ai faite. Et puis, je suis venue au Québec en ayant un peu oublié ça. Puis en arrivant au Québec, j'ai eu l'impression de rentrer chez moi. Mmh. Je ne me suis jamais expliqué ce sentiment-là, mais ça ne m'a jamais quitté. Alors, je suis allée expédier l'intendance en France, c'est-à-dire finir mon diplôme, et puis revenir ici, et puis voilà. Et c'est la langue qui m'a amenée au Québec. Moi, j'aime le français dans toutes ces incarnations-là, tous les registres vulgaires, soutenus, familiers, précieux, orduriers, tout ce que j'aime la langue dans toutes ces incarnations-là, puis dans toutes les manières qu'elle est parlée. J'ai vécu en espagnol, un petit bout de temps en anglais, en espagnol. Ce qui me manque, c'est la langue. C'est ma langue. Je ne pense pas que je pourrais vivre durablement sans au moins en lire, en entendre un peu, parce que c'est ça mon univers intérieur.
Ouais, puis j'ai l'impression que dans les parcours de traductrice, il y a souvent une expérience concrète, vraiment biographique, rapide dans la vie, qui apprend à ces personnes-là que il y a toujours plus que deux langues. On va finir par traduire d'une langue à l'autre, mais pour avoir la sensibilité de voir les parcours, il faut réaliser que chacune des deux langues peut s'ouvrir en deux autres langues. Et Oana nous expliquait quelque chose de similaire dans son parcours entre le roumain, l'anglais et le français. Et je pense que pour toi, ça a été important que d'abord le français se scinde avant que l'anglais arrive, puis que tu décides qu'on allait apporter de l'anglais au français pour voir toutes les possibilités.
Mais ma première sidération linguistique, c'est que moi, je vivais dans j'ai grandi dans un très petit village là, de moins de 2000 habitants. Et puis, un jour, je vais chez mon amie, ma petite copine, on devait avoir 8 ans, là. Et puis, sa mère, j'entre et sa mère me dit « Frame-lui ». Je dis « Pardon ?» Elle me dit « Frame-lui ». Je comprends pas. Et elle me dit cette phrase complètement incroyable qui s'est gravée dans ma mémoire. Elle dit « Ah, c'est vrai, chez toi, on parle le français. » Je suis tombée de l'armoire en disant « Oui, tout le monde parle français. » Mais non. C'est là que je me suis aperçue que dans certaines familles, les gens entre eux se parlaient le patois du Nord. Alors, ça a été une première sidération. Frame-lui, pour les curieux, là, je vous vois, vous fulminez, vous dites « Elle ne va pas nous le dire. » Ça veut dire « Ferme la porte ». Lui, c'est l'ancien mot pour dire « ferme la porte », ça a donné huis clos, huissier en français. Alors là, je me suis prise de passion pour le patois. Mm-hmm. Il y avait peu de traces parce que les gens avaient honte de cette langue-là, ils ne la parlaient pas. Moi, je la parle pas, je la comprends plus ou moins, puis le patois changeait d'un village à l'autre. Ma mère a vécu 50 ans à Saint-Hilaire-les-Cambrais, elle venait d'un village qui s'appelait Caudry, à 7 km de là. Elle dit « je ne me suis jamais habituée, d'abord, ils ne parlent pas la même langue ». Ben non, c'est quand même, c'est 7 km là. C'est... Bon, alors, mais entre nous, on se parlait français. Ça a été ma première sidération. Mm-hmm. Puis après, ben, y a eu la découverte de l'anglais, de l'allemand et beaucoup plus tard de l'espagnol.
De l'espagnol, ouais. Mais bon, concentrons-nous sur l'anglais parce que c'est quand même la langue que tu as traduit principalement dans ton parcours de traductrice. Donc, la première traduction qui t'apparaît comme traduction, même si, bon, tu as lu Baudelaire, tu as lu la traduction d'Edgar Allan Poe par Baudelaire, avec grand plaisir, mais sans trop voir qu'il s'agissait d'une traduction. La première traduction qui t'apparaît comme traduction, c'est encore une fois lié à la musique.
Oui, c'est une chanson de Genesis, parce que croyez-le ou non, je dis ça, mais j'ai l'impression qu'un dinosaure qui va sortir de mon sac à main, là, mais dans les vinyles, là, des fois, les vinyles de la pop anglaise, il y avait la traduction en français. C'est quand même incroyable. Les maisons de disques embauchaient des traducteurs et traductrices pour traduire ça. Et il y avait une chanson de Genesis qui s'appelait Blood on the Rooftops. Donc, mot à mot, ça veut dire du sang sur le faîte des toits. Vous ne voulez absolument rien dire. Puis en fait, ça parlait un peu du sensationnalisme dans les médias et tout ça, et ça avait été traduit par du sang sur les ondes. Et moi, je suis restée sidérée. Qu'on puisse traduire rooftops par ondes, je suis restée sidérée, mais je mesurais que c'était un coup de génie, parce qu'on avait trouvé le sens, bien sûr. Du sang sur les ondes pour faire vendre par le sensationnalisme. Alors ça a été la première fois où je me suis dit « Waouh, c'est tout un métier, là, de traduire, c'est... » Oui.
Mais contrairement à ce qu'on peut penser, tu décides pas à ce moment-là, je serai traductrice. Alors non. La vie t'amène aux États-Unis, tu développes ton anglais, atterris au Québec, et le premier métier que tu décides qui sera le tien, c'est la rédaction.
Oui, oui. Je sais pas s'il y a quelque chose dans l'eau au Québec qui fait que j'ai des illuminations soudaines. Bon, j'en ai eu deux dans ma vie non plus, on va pas appeler l'hôpital tout de suite, là. Mais oui, je me suis réveillée un matin en disant « je vais être rédactrice ». Je sais pas d'où ça venait, je faisais des jobs à droite à gauche, là, pour vivre, et puis comme peut-être possiblement vulgarisation scientifique, je sais pas. Puis la deuxième pensée, ça a été bon, pour être rédactrice, il faut d'abord être traductrice. Je sais pas à ce jour pourquoi j'ai pensé ça. Alors j'ai envoyé des CV, j'ai pris les pages jaunes encore, hein, on n'est pas loin des peintures rupestres là. J'ai pris les pages jaunes, puis j'ai appelé les cabinets de traduction qui avaient les plus grosses annonces en me disant, s'ils ont de l'argent pour acheter une annonce, ils ont de l'argent pour m'embaucher. Le raisonnement était pas complètement fou non plus. Et puis, je me suis retrouvée dans un cabinet de traduction où j'ai traduit pendant un an des textes promotionnels publicitaires. Puis au bout d'un an, il y a une fusion d'entreprises qui fait que L'atmosphère est devenue irrespirable pour moi, donc je suis partie à la pige. Et puis la traduction littéraire est arrivée
avec les romans d'amour.
Un peu après. Oui. Ben, en fait, le tout premier, c'était un essai sur le pouvoir du cristal. Bon, quand je dis essai, on s'entend que c'était un petit peu excessif comme
appréciation. C'est parfait pour une illumination.
Oui, m'a été proposé par Québecor. Et puis après, ça a été des romans d'amour pour Flammarion. Alors, j'en ai traduit, ouais, 7, 8, 9, là, et puis je me suis fait la main comme ça, parce que j'ai pas de formation en traduction. Alors, je me suis fait la main, puis surtout, j'ai appris qu'on peut prendre sa place en traduction. C'est-à-dire, ce n'est pas un métier, ce n'est pas, la traductrice n'est pas inerte. Quand j'enseigne, c'est la première chose que je dis à mes étudiants, vous n'êtes pas inerte. On donne le même texte à 100 traducteurs, on va avoir 100 traductions différentes, dont 30 qui ne veulent pas le papier, ceux qui sont imprimés. Probablement 7, 8, 9 très bonnes, puis entre deux, une zone grise. Alors, ces romans-là, ça m'a appris ça, parce qu'on s'entend que c'était des romans qui étaient un peu écrits à la chaîne, là. Donc moi, je pouvais prendre toute la place, là. J'ai déjà remplacé des méduses par des frisbees, puis c'est passé comme une lettre à la poste. Ben oui, parce que monsieur, madame se promenait, puis là, ça commençait un peu en ébullition, puis, gna, 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 puis bon. Et puis là, elle allait marcher sur une méduse, et le monsieur dit « Attention, une méduse !» Et là, ils tombent tous les deux sur le sable, puis ils s'embrassent. En tout cas, c'est formidable. Sauf qu'une méduse, bof, là, c'est pas un animal de compagnie, vraiment. Très très prisé, et puis en plus c'était techniquement une physalie, il n'y a personne qui sait ça, c'est un mot pour le Scrabble, le PHY. Alors moi j'ai mis un frisbee, j'ai dit qu'il y avait un gamin qui avait lancé un frisbee, puis attention un frisbee, puis là il tombe, parce que le but du jeu c'est qu'il tombe et qu'il s'embrasse, bien sûr. Alors bon, mon erreur a un peu été de frapper à la porte de l'éditrice et dit au fait j'ai remplacé les méduses par des frisbees. Elle a dit pardon. Puis elle a compris et c'est resté comme ça. Alors ça m'a appris d'abord le souffle, parce que la traduction littéraire c'est long, un livre c'est long, et c'est aussi pour ça que je suis allée vers ça, parce que quand je traduisais des petits textes, j'avais l'impression d'être un maillon d'une chaîne infini dont je voyais aucune des deux extrémités. Les textes entraient dans mon modem, dans une langue, sortaient par l'autre, puis on perd le compte. Alors, les romans d'amour, ça m'a appris le souffle, et puis ça m'a appris que... ça m'a appris que ce qui est important, c'est qu'on rende ce que l'auteur a voulu donner. Puis si il faut traduire Méduse par frisbee... C'est ça.
Oui, puis une autre force que tu as et qui se développe à travers tout ça, ce sont les dialogues. Et la force que tu as avec les dialogues vient en partie de ton affinité avec le théâtre, qui est la partie de ton parcours dont on n'a pas parlé encore. Et avant de se plonger là-dedans, je vais nous faire entendre une autre personne très importante dans ton parcours.
Catherine Ego est une femme des paroles au singulier et des paroles au pluriel. Elle adore la scène et que les rideaux s'élèvent pour entrer sur scène. Elle a toujours la parole juste, sage, drôle, bienveillante, créative, directe lorsqu'il est question de parler de ses principes et sans concession lorsqu'elle prend la parole pour défendre ses actions ou injustices envers des gens moins privilégiés ou que la société veut ignorer. Et lorsqu'elle donne sa parole, oh là là, on est dans un engagement à toute épreuve, rassurant, un socle inébranlable dans lequel beaucoup de gens peuvent s'appuyer. On se connaît depuis plus d'une trentaine d'années, en tant qu'amis et collègues de notre duo de guitare et voix parlée, paroles égales. C'est elle qui joue la guitare et moi qui parle. Non, quand même, blague à part, depuis plus de 30 ans, je suis toujours un pâmoison face à ses qualités. On dirait qu'elle sait tout faire et les faire d'une façon parfaite. Sa dévotion et consécration pour les mots, pour les livres, pour la traduction est séculaire. Obsessive et obstinée, même parfois à se laisser oublier et passer l'œuvre qu'elle traduit par-dessus tout, même son sommeil, son temps de repos, ses fins de semaine, ses vacances. Je l'ai vu à l'ouvrage dans ses plus de 40 livres traduits avec tellement de panache, d'élégance et de rigueur. Mais finalement, je dirais que Catherine ne traduit pas. Elle joue. Comme la si bonne comédienne qu'elle est, elle ne joue pas. Elle rentre dans les personnages, s'habille de ses gestes, de ses mots, de ses sentiments. Ainsi sont ses traductions qui l'habitent complètement. Elle parle comme les personnages de son livre. Elle se meuve, elle s'ensurge, elle crie, elle pleure, elle rit, elle doute. Et à la fin, la seule personne qui peut la libérer de cette transe est son éditeur ou son éditrice, lui rappelant que l'échéance tombe la semaine prochaine et que les rideaux aussi.
Mais Jeannot, comment as-tu débusqué cette parole?
Eh bien, commence par nous dire qui est-ce.
Ben, c'est Arturo Parra, c'est mon complice depuis 30 ans qu'on se connaît. C'est mon grand ami. Il est guitariste et compositeur. Et puis, on a un duo. On s'était rencontrés depuis une semaine qu'on a commencé à répéter ensemble. Moi, je voulais dire des textes, et puis, sans que la musique soit décorative dans le fond. Parce que c'est souvent le cas. Et puis lui voulait faire la même chose, parce qu'il y a beaucoup de personnalités, qui voulait aussi que la guitare soit au premier rang. Donc on voulait un dialogue entre deux instruments, dont l'un serait une voix parlée. Et on a mis 2 ans pour composer notre première pièce de 18 minutes, parce que là, ce que vous avez entendu, c'est plus de mots que je n'en entends une semaine de sa part. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup.
Oui, en général, c'est sa guitare qui parle.
Et puis donc lui n'est pas dans le texte. Il est souvent, en fait, il entend ses cues quand je parle à la musicalité de la voix. Puis des fois, il dit waouh, c'est super beau cette phrase-là. Je dis, tu plaisantes ou quoi? Ça fait 20 fois qu'on le joue, il n'a pas entendu les mots, il était bon. Et puis inversement, moi je ne lis pas la musique. Alors le temps qu'on se trouve un langage commun, ça a pris 2 ans.
Et vous avez beaucoup circulé ensemble, vous avez fait des tournées, vous vous êtes promené à travers le Québec. Et à un moment, vous avez eu un très beau défi qui a été d'accompagner vers la scène la poésie de Miguel Hernández.
Ouais.
Est-ce que tu veux nous raconter... Comment ça s'est passé?
Ouais, Miguel Hernández, c'est un poète qui habite Arturo depuis très très longtemps. Puis moi, il m'en parlait, puis je sais pas, je me disais, je suis peut-être un peu hermétique à la poésie, je comprends rien. Puis bon, mais voilà, chacun ses petites lubies aussi. Et puis un jour, Miguel Hernández, pour vous situer, c'est quelqu'un qui est né en 1910, mort en 1932 dans les prisons de Franco. Donc il était en Espagne, il est l'équivalent de Federico García Lorca. Federico García Lorca est beaucoup plus connu à l'étranger parce qu'il a écrit du théâtre, ce qui voyage mieux que la poésie en traduction. Ça voyage plus loin, plus vite. Et en 2010, pour le 100e anniversaire de la naissance de Miguel Hernández, le consulat d'Espagne à Montréal nous a dit « faites quelque chose ». C'était ça le mandat. Faites quelque chose. C'est le centenaire de notre poète national. Alors, nous, on a fait ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire un spectacle. Et puis, là, c'était très, très clair dès le début que moi, je ne voulais pas qu'on parle qu'aux Espagnols de Montréal. Je ne voulais pas non plus qu'on entende Miguel Hernández uniquement en traduction. Donc, on a retraduit les textes parce qu'il a été traduit plusieurs fois. Miguel Hernández, surtout ses poèmes les plus connus, on s'est dit, on va prendre ça, puis voilà. Eh bien, non. Parce que moi je lisais ça, je disais mais je peux pas dire ça sur scène, c'est trop complexe. Sur scène, il faut que les gens comprennent. Là, il y a pas rewind, là, il y a pas rewind ou il y a pas on recule de 2 pages pour comprendre ce qui vient de se passer, c'est fini là. Alors il fallait une traduction plus immédiate, qui soit musicale aussi. Alors c'était assez troublant parce que toutes ces traductions étaient bonnes. C'était pas des mauvaises traductions, mais elles n'étaient pas adaptées au but que nous on se proposait, qui était de dire ces textes-là sur scène. Et en plus, qu'il y ait une certaine musicalité. Alors, comme on ne voulait pas faire un texte en espagnol, un texte en français, un texte en espagnol, parce que le cerveau s'accoutume trop vite, puis arrête d'écouter. Quand on arriverait dans la langue que la moitié de la salle ne comprendrait pas, les gens arrêteraient. Alors, on a enchevêtré la traduction et la version originale. C'est-à-dire que dans une même phrase, je peux passer de l'espagnol au français. Puis juste avant de monter en scène pour la première fois devant monsieur le consul d'Espagne, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Mais c'est du délire. La moitié de la salle va rien comprendre, la moitié du spectacle, puis l'autre moitié va rien comprendre, l'autre moitié, tout le monde va être mécontent, ça va être le bain de sang, ça va être la guerre civile. Non, pas du tout, tu sais. On voulait rendre hommage à Miguel Hernández, mais pas au point de rejouer la guerre civile d'Espagne quand même. Alors, donc, on s'est dit, en avant comme avant, là, c'est trop tard. On est sur scène, il est un peu tard pour y penser.
De toute façon, le consul avait fait baisser les attentes.
Oui, parce que lui, il nous a présenté comme étant des gens qui allaient parler de García Lorca. Et on dit, non, c'est un peu le 100e anniversaire de naissance de votre poète national, Miguel Hernández. Mais bon, alors, voilà, il était probablement très très ému parce que c'était une première, je ne sais pas. Alors, on a joué, puis voilà, et puis après, les gens, il n'y a pas eu d'émeute. Les gens étaient super contents. Il y a des gens qui nous ont dit, à un moment donné, on ne comprend plus, mais on te suit. Là, puis à un moment donné, on retrouve les mots comme si d'un coup, la couleur était revenue, là. Alors, ça a été une expérience extraordinaire. Et puis, on a même joué ce spectacle-là à Bogota. Donc, devant une salle, probablement, il n'y a pas vraiment de comprenait le français. Et puis, ça a été la même réaction. les gens se sont laissés complètement emporter par la poésie de Miguel Hernández. Alors on était très contents.
On va en écouter un extrait.
Yeah!
Desde que l'alba quiso ser alba, toda eres madre. Quiso la luna profundamente llena, en tu dolor lunar he visto dos mujeres y un removido abismo bajo una luz serena. Qué olor a madre selva desgarrada y hendida. Depuis que l'aube veut être l'aube, tu es mère. La lune a tant désiré être pleine. Dans ta douleur lunaire, j'ai vu deux femmes et un abîme insondable baigné d'une lumière sereine. Que olor a madre selva desgarrada y hendida. Que exaltación de labios y honduras generosas. Bajo las huecas ropas aleteó la vida y sintieron vivas bruscamente las cosas. Quelle douce odeur de lierre, déchirée, écartelée. Quelle folle exaltation des lèvres et des vallons prodigues. En dessous des vêtements qui flottent au vent, la vie a pris son envol et soudain, tout est devenu vivant. Tu es plus limpide, plus tendre, tu es plus douce. Tu brûles et te consumes dans le recueillement. L'amour nouveau t'inspire la légèreté de l'oiseau et habite les chemins que ton souffle parcourt lentement. Ris, tu es mère de lune. Eres más clara. Eres más tierna. Eres más suave. Ardes y te consumes con más recogimiento. El nuevo amor te inspira la levedad del ave y ocupa los caminos pausados de tu aliento.
Je dois arrêter malheureusement pour une question de temps, mais j'invite tout le monde à aller sur ta chaîne YouTube, en fait la chaîne YouTube de Paroles Égales qui existe encore, où on peut aller voir beaucoup de matériel que vous avez créé avec Arturo à travers les années.
Je voudrais préciser quelque chose parce que je ne l'ai pas dit, du coup j'ai parlé des traductions qui avaient été publiées préalablement, donc Arturo et moi avons retraduit tous les textes que nous voulions dire. Alors ça a été une expérience parce que moi je n'avais pas un niveau d'espagnol assez important à ce moment-là pour traduire tout seul. Et puis Arturo, donc il maîtrisait l'espagnol, mais écrire en français, c'était pas son métier. Donc ça a été une belle expérience d'un bout à l'autre, quoi.
Oui, puis moi, ce que je veux qu'on retienne de ça dans ton parcours, c'est le fait que d'être passé par le théâtre, puis d'avoir cette expérience de la scène, fait que tu entends autant que tu vois les mots. Et je pense que c'est très audible et lisible dans ton travail de traduction, même quand c'est pas pour la scène. Qu'il y a quelque chose d'extrêmement abouti, d'extrêmement naturel. Tu t'arrêteras pas avant que, d'une certaine façon, même si c'est pas sur la scène, que ça puisse être dit et que ça coule un peu. C'est comme si ton oreille s'était habituée à ça, puis je pense que ça fait partie de la qualité de ton travail. Et c'est drôle parce que quand on te demande quelle traductrice tu admires le travail, la première qui te vient en tête, c'est une traductrice justement qui a cette qualité-là de produire des textes qui peuvent être dits et dont on va oublier d'une certaine façon grâce à la grande musicalité qu'ils ont été traduits.
C'est Françoise Brun qui a été la traductrice historique d'Alessandro Baricco, l'auteur italien de Novecento Pianiste, Océan Mer, Château de la Colère, Sanssouci, et tout ça, un auteur extrêmement prolifique. Maintenant, il est traduit par d'autres personnes, peut-être même retraduit, mais je ne suis pas sûre. Mais c'est elle qui l'a amené au lectorat francophone, parce que c'est ça qu'on fait en tant que traducteur et traductrice. S'il n'y avait pas eu Françoise Brun, toute la francophonie aurait continué d'ignorer Alessandro Baricco, ce qui serait un grand dommage, parce que c'est un bon auteur. Et puis, moi et Arturo, on a monté sur scène Novecento Pianiste, qu'on a rebaptisé Novecento Guitariste, l'intégralité du roman. Ça dure 1h30, 2 fois 45 minutes. Et puis moi, je fais tous les personnages. Arturo, il joue. Il y a eu toutes sortes de scènes cocasses avec ça. Et puis aussi Océan Mer, qui est le livre deuxième d'Océan Mer, qui était qui est un texte magnifique. Et puis c'est vrai qu'il n'y a rien eu à retoucher dans sa traduction, donc c'est parce qu'elle est c'est parce qu'elle est déjà enracinée dans l'oralité. Alors c'est ce qui me fait dire, bon, quand on dit c'est une bonne traduction, mauvaise traduction, idéalement il aurait fallu lire la version originale, lire la traduction, puis avoir un niveau suffisant pour juger des deux, ce que personne ne fait évidemment. Donc quand vous voyez dans le journal, traduction, gnagne, bon, demandez-vous un peu d'où ça vient et quelles sont les bases de ça. C'était mon petit commentaire éditorial, Jeannot. Oui. Donc, donc là, moi, ce qui me fait dire que c'est une... Je ne vais pas dire que c'est une bonne traduction, parce que je suis en train de me contredire, mais c'est un texte en français qui est magnifique. Ouais, alors, c'est une grande traductrice, évidemment. Parce qu'on lit ça, puis on ne souffre pas. Vous savez, quand on lit une traduction, puis qu'on souffre, ce n'est pas bon signe. C'est comme quand on regarde un spectacle sur scène, puis on souffre pour les comédiens, ils ont l'air de trouver ça dur, puis de craindre le blanc de mémoire, puis ils ont mal partout, puis ben, c'est pas bon, là, on va pas voir des gens sur scène pour souffrir à leur place. Donc c'est ça, c'est notre pire, c'est notre plus grande qualité, c'est la beauté de la traduction, puis c'est notre plus grande malédiction. Mmh. Parce que quand c'est bon, ça se voit pas.
Ouais, c'est ça. Ben là, on fait la boucle avec le travail d'artisanat qui était celui de ta famille.
Ouais.
Un travail assidu, un peu de l'ombre, et qui, d'une certaine façon, est beaucoup plus rapidement appelé à être remplacé. Comme tu l'as déjà dit, la traduction appelle sa retraduction ou son remplacement prochain, qui est quelque chose qui est un peu différent du travail de l'artiste, qui, d'une certaine façon, aspire toujours à faire la version définitive ou la version finale de ce qui est devant les yeux. Puis, toi, tu l'as vécu à travers ta famille très jeune. Je sais que ça a été comme marquant dans ton parcours de voir la destruction des métiers à tisser de ton oncle. Je ne sais pas si tu veux nous raconter cet épisode.
Ben oui, mon père venait d'une lignée de tisseurs. Donc son père lui a dit, quand il était jeune, tu vas être tisseur. Il dit, OK. À l'époque, on disait OK. On ne disait pas OK, on disait d'accord, papa. Et puis, voilà. Donc, quand lui a pris sa retraite et son frère avait hérité de l'atelier de son père, mon père avait des métiers semi-automatiques assez de base qui ont été vendus en Tunisie. Donc, tout son atelier est parti en Tunisie. Et puis, mon oncle, par contre, avait des métiers beaucoup plus élaborés, qui pouvait faire des dessins très, très élaborés. Il a même fait une nappe unique pour la couronne d'Angleterre, où il y avait le blason de chacun des... Comté des princes, des dieux, c'est quoi, à la place où cette personne est assise à table, hein, si c'est pas la classe. Alors, donc ces métiers étaient extrêmement, c'était des joyaux, c'était une beauté. Mais quand il a pris sa retraite, il n'y avait plus personne qui voulait faire ça. C'était devenu trop coûteux, il n'y avait plus personne qui avait l'expertise de ça non plus. Alors lui, qui avait aimé passionnément ses métiers et son métier de tisseur, et qui avait travaillé avec son père, donc mon grand-père, jusqu'à ce que lui-même prenne sa retraite, mon grand-père était très très âgé à ce moment-là, ben ses métiers ont juste été cassés pour être vendus au poids. Alors la fonte au poids, le métal au poids, le bois au poids, ce qui restait de tissu au poids, etc. Puis moi, je m'étais prise de passion, tu as parlé de mon amour du bricolage tout à l'heure, Jeannot, je m'étais prise de passion pour faire des bijoux avec des pièces de métal. Des pièces mécaniques, là. Bon, les premiers essais n'ont pas été très concluants parce que j'avais pris un morceau d'entretoise, qui est une pièce en laiton qui pèse une demi-tonne. Elle était cassée, ça pesait quand même encore un quart de tonne. Donc, en pendentif, c'était pas vraiment idéal. On portait ça 5 minutes, puis on se retrouvait chez l'ostéopathe, donc c'était pas idéal. Mais néanmoins, quand mon oncle a pris sa retraite, mon père a dit, va dans son atelier, tu pourras prendre toutes les pièces que tu veux. Alors, je suis passée à la maison de mon oncle, on est arrivé là, et puis il a ouvert les grandes portes en métal, comme ça, sur son atelier, qui était silencieux. Ça, c'était une sidération, parce qu'un atelier de tissage, c'est extrêmement bruyant. Puis il y avait des tas. Et là, il m'appelait Tchot, ce qui en patois veut dire petite. Petite, Tchot. Et là, il m'a dit, un Tchot, des si beaux métiers. Puis là, on est partis à pleurer tous les deux, puis j'ai dit, OK. On n'a même pas pu entrer. Alors, c'était un univers qui s'effondrait. Puis moi, oui, c'est pas que je veux qu'on revienne à la typographie au plomb, là. C'est pas ça la question. Mais je trouve que c'est important d'avoir du respect pour le travail minutieux, le travail qui demande un apprentissage, une expertise, puis qui prend du temps. Qui prend du temps.
Oui, tout à fait. Puis j'utilise justement cette idée-là pour nous faire naviguer vers le dernier sujet dont je voulais parler avec toi. Ça prend du temps pour apprendre son métier de traductrice, ça prend du temps pour bien faire une traduction, c'est une expérience artisanale qui prend du temps, et je pense que c'est la première idée que tu as envie de mettre de l'avant dans la grande discussion qu'on est obligé d'avoir entre traducteurs et traductrices ces années-ci sur l'intelligence artificielle.
Ouais.
Hein, l'intelligence artificielle menace notre métier, a déjà dans les dernières années remplacé beaucoup, beaucoup, beaucoup de postes dans le domaine de la traduction non littéraire. Mais l'épée de Damoclès est au-dessus de nos têtes aussi dans la traduction littéraire. Et bon, on serre les coudes en ce moment de traducteurs, traductrices pour exiger qu'un jour les programmes de subvention, que le plus rapidement possible, les programmes de subvention exigent que la traduction littéraire soit faite sans le recours à l'intelligence artificielle et que les éditeurs soient obligés de le déclarer quand ils le font pour qu'on puisse continuer à apprendre, parce que c'est en le faisant qu'on développe nos armes et un processus de pensée, une rencontre de l'âme, une rencontre du mot qui se passe. Et pour toi, c'est ça que tu as envie de mettre de l'avant, je crois, le fait que cette expérience-là, qui prend du temps, se remplace pas par un clic.
Non, parce que bon, l'intelligence artificielle, évidemment, c'est vaste. Là, on pourrait dire un vérificateur d'orthographe, c'est de l'intelligence artificielle. Peut-être là, bon, ça, ce sont des outils, c'est correct. Ce que je trouve extrêmement dangereux, c'est de se dire qu'on peut traduire un roman en 10 secondes avec ChatGPT ou avec DeepL. C'est dangereux. Parce que, un, c'est pas vrai. Moi, je l'ai fait, l'expérience, là, je suis pas réfractaire à la technologie, je dis, je vais voir, c'est un désastre. Et puis, quand je montre ça à mes étudiants, puis que je leur dis, OK, voilà la traduction, qu'est-ce que ça dit? Ah, ça parle de... OK, ça répond à la question, ça parle de quoi? Mais qu'est-ce que ça dit? Ils savent pas, parce que le raisonnement, l'idée ne leur est pas arrivée de manière idiomatique. Quand un texte est idiomatique, on n'a pas besoin de se demander le qui, le pourquoi, le comment. Ça nous arrive, on comprend, ça s'imprime. Alors on peut vivre l'émotion, on peut dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, on peut réagir en tant qu'être humain à ça. Mais si c'est traduit par une machine, il y a une... ça grince toujours. C'est comme affiner une veste. Puis, oh, les manches sont trop petites. Ça marche jamais, notre affaire. Là. On peut pas danser avec ça. Alors, pour l'instant, ça marche pas. Est-ce que ça marchera un jour? Peut-être, je ne nous le souhaite pas. Parce que ce jour-là, ça voudra dire que, non pas que la machine est devenue aussi riche que nous, en termes de langue, en termes d'imaginaire, en termes de souplesse. Ça voudra dire que nous sommes devenus aussi pauvres qu'elle. Parce que ce que je redoute, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est nous. C'est notre cupidité, collectivement, là. Et c'est notre paresse, quelque part. Est-ce qu'on est vraiment obligé de traduire tous les livres qui se publient dans toutes les langues? Moi, je crois pas. Moi, je trouve ça cool. Qu'il y a des éditeurs qui disent, bah, ça oui, ça non, bon. Et puis, de toute façon, on pourra pas tout lire. En ce moment, il y a plein de livres qui ont été écrits au début du XXe siècle et qui tombent dans le domaine public. Alors, on voit passer des annonces. Moi, j'en ai vu dans LinkedIn. Une fille qui dit, oh, un éditeur m'a approché, il avait fait traduire... je crois que c'était Mrs. Dalloway, par ChatGPT, puis il me demande de le relire. Alors on dit, mais pourquoi, mais comment? Probablement parce que le livre est dans le domaine public, donc les droits sont accessibles à tous. Alors, le problème, c'est que l'argent qui n'aura pas été mis sur la traduction, il va être mis sur la promotion. Et puis en moins de 3 mois, cette version-là aura supplanté toutes les autres versions sur les rayons, parce qu'elles coûtent moins cher. Alors, mais au total, c'est qu'est-ce que ça donne? Puis on n'arrivera plus à reconnaître les choses. Déjà maintenant, on voit des photos, puis c'est des tigres qui jouent au badminton. On dit, waouh, super, extraordinaire, comment ça ils ont appris à jouer au badminton? Bon, on s'entend que c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est sûr, si c'est un tigre qui joue au badminton, je vous l'accorde, qu'on va peut-être avoir un petit doute. Mais il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de doute, puis ce sont les machines qui ont fait ça. Ce n'est pas la réalité. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que... J'espère que je me trompe là, de tout cœur, que notre langue, qui est notre vision du monde, qui est notre manière d'entrer en communication avec les gens, qui est notre manière d'imaginer, de rêver, soit devenue d'une pauvreté exténuante. Et ça, qui va inventer les néologismes, hein? Ah ben voilà, ce ne sera pas nous. On sera pauvres en train de manger des clous, Jeannot. C'est ça qui va arriver. Donc, c'est ça. L'intelligence artificielle, c'est de la dynamite. C'est bien utile pour plein de choses, mais... pas dans une cuisine. Voilà.
Moi, j'attends de rencontrer une intelligence artificielle qui, comme toi, aura été sur scène au théâtre, qui, comme toi, aura eu toute cette expérience concrète-là avec les communautés dont tu as traduit la littérature, qui, comme toi, a eu ce parcours de vie extrêmement riche qu'on a vu ensemble ce soir. Je pense qu'elle n'est pas près d'exister, celle-là. Pour le moment, on va non seulement se contenter de la tienne, mais on va célébrer la tienne. Merci beaucoup, Catherine.
Merci, Jeannot.
C'était le deuxième épisode de la version originale, un balado de l'ATTLC. Je m'appelle Jeannot Clair. Merci à Catherine Ego et à Benoît Côté pour l'enregistrement. On se retrouve au troisième épisode de la première saison avec Dominique Fortier. À bientôt.
What we have learned is that we think that we speak a language, but it is the language that speaks us.